Radio Pleine Lune sur 101.4, ce soir, Thérèse Moreau, historienne, nous raconte, nous parle de quelques figures de femmes du 19e qui ont marqué la littérature du 19e, mais qui ont été soigneusement écartées de tous les manuels d'histoire et de littérature. Thérèse Moreau sur Radio Pleine Lune, 101.4 MHz.
Parce que moi j'ai parlé du 19e parce que je le connaissais bien, mais quand on va ailleurs, on s'aperçoit que c'est aussi déjà un petit peu la même chose, bon, avec des conditions de vie, de société différentes. Et je suis en train de traduire à l'heure actuelle la Cité des Dames de Christine de Pizan. Et quand on lit les 50 premières pages du texte, qui sont un plaidoyer pour les femmes, hein, sur la manière dont elles se situent vis-à-vis des hommes dans la société, eh bien, toutes les personnes à qui je l'ai passé ont trouvé ça d'une extrême modernité. Alors, c'est quand même paniquant de voir qu'un texte qui a été écrit au XVe siècle, on peut souscrire à tout ce qui est dit. Absolument tout.
Ce qui m'avait frappé, c'était l'expérience collective, justement. C'était pas une femme qui écrit un livre qui a des espèces de visions de précurseuses. C'était une expérience collective. Je ne dis pas qu'elle était hyper minoritaire, mais elle était collective. C'était des femmes entre elles qui écrivaient des revues.
Ah oui, mais ça, je crois qu'elles l'ont... Au 19e siècle, c'est quand même assez constant, hein, sur les femmes, parce qu'en 1948, elles vont faire la même chose. Par exemple, la ruche sera un mouvement de femmes. Quand on voit, par exemple, ce qu'ont demandé les femmes à propos de l'accouchement et puis des soins aux nouveau-nés en 1948, c'est extrêmement révolutionnaire ce qu'elles ont demandé, y compris la prise en charge par le groupe, la possibilité d'avoir des lieux dans les usines pour pouvoir allaiter les enfants, des crèches assez modernes, hein, en comparaison. Bon, la fronde aussi, c'est pareil, quand elles font de la fronde, elle met tout son argent et elle n'emploie que des femmes. Hein. Elle crée un syndicat de l'imprimerie de femmes, puisque le syndicat de l'imprimerie était extrêmement contre les femmes. C'était un des syndicats les plus misogynes à la fin du 19e et au début du siècle. Et elle crée son propre syndicat, elle emploie des femmes, elle les paye le même prix qu'on paye des hommes dans les autres journaux, ce qui est assez exceptionnel. Bon, alors c'est vrai qu'il y a quand même toujours un travail de groupe. Mais je crois que les Saint-Simoniennes, c'était plus à cause de la doctrine qu'elles étaient en groupe que pour autre chose. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué, parce qu'elles font partie de tout un ensemble de travaux communautaires, de réflexions sur la communauté qu'on trouve au début du siècle. Et bon, c'est tout simplement par ignorance, hein, que je le fais pas.
Talk.
Tu parlais de La Ruche, c'était un journal ou
Alors, La Ruche, c'était un journal, hein, qui s'appelle La Ruche Populaire, qu'elles ont publié, mais également...
C'est qui l'a publié?
Alors, c'était un certain nombre de femmes de 48, et en particulier des sages-femmes, qui était un groupe très organisé. Alors, les infirmières, je pense, à cause de leur rôle primordial dans les révolutions, il fallait soigner un blessé, et en 48 et en 70, un rôle d'avant-garde, elles publient beaucoup plus. Et alors, c'était donc et un journal et une coopérative. Cette coopérative était une coopérative d'achat, hein, où on groupait pour avoir des prix sur la nourriture, mais aussi une prise en charge des individus par le groupe. Donc, puis des revendications sur les crèches, enfin, elles ont toute une vision du monde du travail, puisque
c'était une coopérative de femmes.
Principalement. C'est principalement une coopérative de femmes, bien qu'il y ait très peu de choses à l'époque où la non-mixité soit de rigueur. Quand il y a une non-mixité, c'est plus par hasard, hein, c'est pas parce qu'elles le veulent. Croyez, mais enfin, elle est un peu plus connue puisqu'il vient de sortir un petit livre sur elle. Bon, alors Clémence Royer, elle était une philosophe du 19e aussi, qui a vécu à Lausanne pour la plupart du temps, bien qu'elle soit française, qui a été couronnée par le canton de Vaud pour avoir fait, en même temps, une Proudhon d'ailleurs. Elle a eu le premier prix avec Proudhon pour un ouvrage sur les impôts. Ce qui est une question qui paraît peut-être amusante comme ça, mais qui est une question très importante, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que la société vous détermine selon vos impôts. Ne pas payer d'impôts, c'est être une non-personne. Hein? Donc, elle a élaboré, d'ailleurs, le canton de Vaud vit pour beaucoup sur l'élaboration des impôts, bien qu'il y ait beaucoup plus de revendications féministes dans ce qu'elle a fait, qu'on en trouve à l'heure actuelle dans les lois sur les impôts. Mais elle est surtout connue pour avoir fait la traduction de Darwin et avoir fait des commentaires sur Darwin qui étaient très en avance sur même ce que Darwin disait à l'époque. Et elle a fait un cours de philosophie des femmes, alors elle non mixte là, puisque l'université de Lausanne ne l'admettait pas en son sein. Elle a fait des cours concurrentiels, elle a ouvert des cours seulement pour les femmes où elle expliquerait aux femmes ce que c'était la philosophie, puisque les femmes ne pouvaient pas faire de philosophie, non pas parce qu'on leur interdisait la philosophie, c'était plus subtil que ça, on leur interdisait de faire du grec. Et comme pour faire la classe de philosophie, on voulait avoir fait du grec, on éliminait automatiquement les femmes. Et après, on disait, mais non, mais, mesdames, on vous laisserait bien faire de la philosophie si vous aviez fait du grec, mais puisque vous ne comprenez pas les termes, ce n'est pas la peine de venir. Donc, elle a ouvert ça. Et on a, à l'heure actuelle, parce que ça a été publié, l'introduction. Alors, je l'ai déjà dit dans Femmes Suisses et je vais le redire. Si quelqu'un a le reste, puisqu'il y a 18 leçons qui ont été refusées par la Bibliothèque nationale. Quand elle est morte, il y a eu un legs à la Bibliothèque nationale qui a dit qu'est-ce que c'est cette femme, ça ne nous intéresse pas, et qui a refusé le legs. Hein, donc maintenant tout est éparpillé, on ne sait pas ce qu'il y a exactement dans ces leçons. Mais l'introduction est déjà fort intéressante. Et on voit là l'élaboration de toute une pensée sur ce que pourrait être une philosophie féministe, et en particulier les rapports entre la philosophie et la science lorsqu'on se pose des problèmes éthiques en tant que féministe.
Hein? Par exemple ?
Eh bien, elle estimait que la science de son époque était une science immorale sur certains sujets. Bon, peut-être comme nous, on se pose les problèmes sur la reproduction. Est-ce qu'on doit être simplement objectif ? Est-ce qu'il y a une science tout simplement objective ? Ou est-ce que la manière dont on pense, est-ce que le militantisme, la manière dont on se situe dans la société, fait qu'on peut repenser la science d'une autre façon ? Bon, alors elle a certainement développé ça dans les leçons, mais on a déjà une dizaine de pages là-dessus dans l'introduction qu'elle a fait. Et ce qui me semble, moi, très intéressant, on avait parlé avec Sylvia, c'est un des projets qu'on a en commun éventuellement un jour. Elle se posait déjà le problème de la transcendance. Hein. Est-ce qu'il était normal qu'en philosophie, on sépare la pratique de l'éthique ? Est-ce qu'il était normal qu'on dise « il y a ça, mais nous, on ne fait pas comme ça dans notre vie parce que c'est différent ?» Et donc, elle pose déjà des problèmes d'éthique féministe qu'on se pose, bon, qu'elle résout à sa façon, qu'elle est raciste, par exemple, comme beaucoup de gens à l'époque. Mais ça aussi, c'est une bonne chose, je crois, d'apprendre que nos ancêtres féministes n'étaient pas exemptes d'idéologie de leur siècle, parce que ça nous met peut-être en perspective ce que nous on dit. Elle dit des choses épouvantables sur l'Afrique. Et elle envisage qu'on utilise les noirs ou les singes pour travailler dans les usines, pour que les ouvriers ne soient plus aussi malheureux. Mais elle met bien les noirs et les singes sur le même tableau. Bon, et je crois que nous, on s'en aperçoit maintenant, mais qu'il doit y avoir dans nos propres discours un certain nombre de choses aussi choquantes maintenant. Donc ça aussi, c'était une femme que je trouvais intéressante. Alors, ça s'appelle Clémence Royer, et c'est aux éditions Maspero, La Découverte. C'est un petit livre qui est d'ailleurs fort bien fait, où il y a un récit de sa vie, de larges citations de ses travaux scientifiques, et puis où en annexe il y a justement l'introduction à la philosophie des femmes.
Est-ce que tu parles aussi dans ton cours, ou est-ce que tu connais les femmes qui ont une pratique scientifique dans les sciences exactes ?
Alors je n'en parle pas, mais je sais qu'il y en a. Hein. Il faut là-dessus voir le livre qu'on fait, Changeons les livres en Belgique. Elles ont fait, à mon avis, un excellent bouquin qui s'appelle L'image des femmes dans les livres scolaires ou du secondaire. Hein, et où elles donnent, entre autres, un certain nombre de femmes qui ont travaillé dans les sciences exactes. Alors moi, j'en connaissais au XVIIIe siècle plutôt. Hein. Bon, mais je crois que Clémence Royer, on pourrait aussi dire qu'elle a fait des travaux de physique-chimie qui sont quand même... Elle serait entre les sciences humaines et les sciences exactes. Mais il y a eu des mathématiciennes. Bon, alors il y avait Sophie Germain qui, elle est au XVIIIe siècle, mais c'est déjà assez connue. Et elle dresse une liste, et Marie Curie n'est pas la première femme. Il suffit de prendre leur liste et on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses femmes qui ont fait pas mal de choses.
Mais... Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui donnent des cours en Suisse, comme toi, dans les universités, des cours féministes ?
D'abord, je ne donne pas l'université. qui n'aimerait pas que je le donne, hein, je pense.
Ah, tu donnes pas,
je le donne, je l'ai donné dans un cadre purement privé. Au départ, je l'avais offert à travers l'Université populaire, qui n'en a pas vraiment voulu. Et ça a été fait vraiment, là aussi c'était du militantisme, par des femmes qui étaient intéressées par le cours, qui ont organisé le cours. On s'est réunis chez l'une d'entre elles, et le cours a été vraiment organisé par les femmes qui voulaient le suivre. Donc c'était tout à fait hors institution. Je ne pense pas qu'il y ait des cours comme... Enfin, à ma connaissance, il y en a peut-être en Suisse alémanique. Hein. Il y a quelques femmes qui enseignent à Lausanne, mais il y a eu des cours sur certaines écrivaines vaudoises ou romandes du 19e siècle. Hein. Mais moi, je ne qualifierais pas un cours sur les femmes d'un cours de féministe. C'est-à-dire que tu peux très bien faire un cours sur une femme, et moi, je peux faire un cours sur Madame de Staël et faire le cours le plus misogyne et le plus machiste qui existe. Alors, je dirais que s'il y a eu des cours sur les femmes, à ma connaissance, dans les universités suisses, et en particulier à Lausanne, je ne connais pas de cours féministes.
Sur Radio Pleine Lune 101.4 MHz, nous venons d'entendre Thérèse Moreau, historienne, nous parler des grandes femmes du 19e. Cette émission était illustrée phoniquement par les Rhapsodies de Brahms interprétées par Kathleen Ferrier dans un enregistrement qui date de 1950.